victimes des catastrophes naturelles en les accordant aux immigrés en situation irrégulière.
Radio G. www.radio-g.fr.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local. Bienvenue dans Venu d'ailleurs, le podcast de la Dalle Angevine. Nous accueillons aujourd'hui Carlos Gomez, 43 ans, coordinateur technique du club d'Angers FC. Bienvenue à toi Carlos et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et puis merci.
Première question rituelle de ce podcast, dans quelle ville tu es né, dans quel pays tu es né?
Je suis né à la ville de Guadalajara, au Mexique.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ville, de tes souvenirs, de ton quartier, de là où tu as grandi?
Je suis né, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Et le quartier où je suis né, il est à 4-5 rues du stade Jalisco. Le mythique stade Jalisco, là où la France avait fait avec Platini un bon parcours.
Est-ce que tu as des souvenirs de cet événement?
C'était en 86, j'étais tout petit. J'y étais, mais bon, là, c'était vraiment... J'ai juste souvenir de l'ambiance à l'extérieur du stade, c'était vraiment sensationnel.
Donc c'était pendant la Coupe du Monde au Mexique en 86, c'est ça? Et tu as d'autres souvenirs un petit peu de cette époque, de cette compétition?
Non, c'était juste qu'on croissait pas mal du monde de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Brésiliens. D'ailleurs, la ville est venue éternel du Brésil. D'ailleurs, la place qui est juste en face du stade Jalisco s'appelle la Plaza Brésil. Donc, à cause de l'amitié avec le Brésil.
Et toi, dans cette ville, dans ce quartier, comment tu as découvert le sport? Est-ce que tu as fait du football très vite, d'autres sports?
J'ai commencé en centre de formation au club de Atlas, là où il a été formé Rafael Márquez, pour ceux qui connaissent, et Andrés Guardado, qui joue actuellement au Betis de Séville. Là, j'étais formé là, depuis l'âge de 7 ans jusqu'aux 10 ans. Et ensuite, j'ai passé au club de l'Université de Guadalajara. Parce que c'est un club, les couleurs, ça me plaisait beaucoup. Mon père n'était pas trop d'accord, mais moi, c'était un choix. Et il l'a respecté. Parce qu'au début, je voulais faire la boxe. Au Mexique, t'as deux religions, enfin trois religions. On est catholique, t'as les boxeurs, t'as les footballeurs. Et moi, je voulais faire la boxe, mais mon père m'a dit, c'est hors de question, tu vas faire du foot.
La boxe est un sport très développé, promu.
Oui. Très, très, très pratiqué, comme les catch aussi. Mais bon, les catch un peu moins, mais la boxe, c'est vrai que on a énormément de boxeurs.
Et ton père a voulu que tu fasses du football parce qu'il était fan, supporter, il adorait
oui,
ce sport.
D'où mon prénom. Mon prénom, c'est Carlos Alberto. Et en fait, c'est par rapport au capitaine de l'équipe du Brésil des années, enfin de la Coupe du Monde de 70. Mon père, je pense qu'il était jeune à l'époque. Et puis voilà, moi je suis né en 79, donc Carlos Alberto, mon prénom.
Il t'a souvent parlé de ce Brésil des années 70, un peu une référence esthétique en termes de football.
C'est ça, donc ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup plu. Puis un footballeur, on est dans la famille, on est des footballeurs. J'ai des oncles qui ont joué au niveau professionnel. Mon père, il était en semi-pro. Et c'était une suite logique, on va dire ça comme ça.
Donc le football était un peu omniprésent dès ton plus jeune âge dans la famille, c'est une histoire de famille?
Absolument, oui. Tous les week-ends, c'était les oncles, les tantes, parfois qu'on allait au stade, pas toute la famille, mais voilà, ils m'amenaient au stade, parfois même sans vouloir, parce que moi j'étais plus passionné pour les sports des contacts. donner des coups et tout ça, mais après c'est vrai que bah, j'ai appris la magie du football, et puis dans tous ces contextes, sur le terrain, puis en dehors du terrain, et puis ça a fini par me plaire.
Tu parlais beaucoup de ta famille, est-ce qu'ils vivent encore là-bas? Est-ce que tu retournes les voir? Est-ce qu'ils viennent ici, à Angers?
Toute ma famille est là-bas, et j'ai eu des personnes de la famille qui ont venu me rendre visite, tels que cousins, des oncles, des tantes aussi, bah, une tante qui va venir prochainement aussi, au mois d'avril, et voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un club mexicain dont tu es supporter, que tu suis encore assidûment?
Bah, t'as Chivas de ma ville, Chivas de Guadalajara, parce que bah, t'as que des joueurs mexicains. C'est, d'ailleurs, ils ont fait un match amical contre l'Atlético de Bilbao d'Espagne, parce que c'est deux clubs, les seuls au monde, qui jouent qu'avec des personnes du pays. Donc, Atlético de Bilbao, ils jouent qu'avec des Basques. Et Chivas de Guadalajara, ils jouent qu'avec des Mexicains. Donc, c'est un club que bah, j'aime bien. Je connais actuellement les joueurs qui sont en Ligue 1. Et puis, on va dire que les clubs de cœur, c'est bah, l'Université de Guadalajara qui joue en Ligue 2.
Est-ce que ton pays te manque? Qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays?
Bah, évidemment, la famille et bah, tout le contexte mexicain, parce qu'on est, très festif, on est chaleureux. C'est vrai que, bon, après, en France, c'est sympa aussi. Mais le temps n'est pas pareil. Et puis, j'ai vu qu'il y a une incidence sur la personne, le temps, justement, quand c'est gris, tout ça, bah, c'est vrai qu'on est moins ouvert. Et même, j'ai commencé à changer moi-même. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, c'est pas moi.
C'est une observation que tu fais ici, la météo a un impact sur le moral des gens, et c'est quelque chose que tu connaissais pas au Mexique.
Exactement, parce que c'est vrai qu'en plus, la ville où je viens, Guadalajara, c'est là où le temps est le plus tempéré. Donc il fait tout le temps 24-25 degrés, enfin tu sors en t-shirt tous les jours ou le matin, il fait pas si froid que ça. L'hiver il fait 10-12, donc c'est pas vraiment froid par rapport à ici, je parle, et c'est vrai que ça change.
Ici il faut combattre la grisaille par la joie, quoi. Il faut
se forcer. Et puis moi ça fait 15 ans que j'habite là, et je supporte mieux le froid, mais je suis toujours pas habitué.
Alors un jour, tu es parti de ton pays. Comment ça s'est passé? À quel âge tu es parti? Pourquoi tu es parti?
J'avais 25 ans, puis c'était dans le cadre des études. Je suis venu faire observer comment ça se passait. Déjà, la France, ça me plaisait énormément dès l'école primaire. L'histoire, ça m'a toujours plu. Après, en grandissant et puis en montant des niveaux à l'école, bah, évidemment, c'était la littérature française. Et tout ça, ça m'a attiré. En plus que dans la famille, il y a tout le temps mon père qui m'a dit, si tu pars un jour à l'étranger, bah, ça ne serait jamais les États-Unis. Ça, c'est interdit. Donc, bah, déjà, moi, c'est vrai que je n'avais pas d'affinité non plus. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça.
Donc, tu avais une attirance pour la France
Au niveau de l'histoire, son histoire qui est très richissime, et puis ancienne comme la mexicaine. Et ça m'a beaucoup plu.
Qu'est-ce que tu es venu faire en France? Alors, comment ça s'est passé? Tu as démarré par quoi comme études?
C'était le français. C'était le français. Et puis, dans le cadre de ma formation en la langue française, j'étais à l'Alliance française au Mexique, à la ville de Guadalajara. Et puis, dans ces cadres-là, je voulais continuer. Le prof que j'ai rencontré là-bas, quand je lui ai expliqué que c'était mon choix, parce que j'ai eu des renseignements où il y a beaucoup d'échanges universitaires, justement avec l'université catholique ou l'université d'Angers publique. Ça m'a attiré. Et puis le professeur Lava, il m'a expliqué que c'était une région en France où il parlait le français le plus pur. Il y avait moins d'accent. Bah, c'est ce qui, d'après lui. Après, j'estime que c'est vrai, qu'il n'avait pas tort.
Donc ton attirance première pour Angers, c'était une histoire de langue, quoi. Il y a eu ce lien avec la langue française.
Tout à fait. Bah, j'avais fait des études des différentes langues. J'avais fait japonais, j'avais fait allemand, anglais évidemment, un petit peu italien et puis bah le français.
Et tu lis ou tu parles aujourd'hui encore plusieurs langues?
Bah un peu moins maintenant, parce que par rapport à mon métier, je suis vraiment immersion, de faire évoluer le club où je travaille actuellement. Et j'ai moins le temps, mais je pratique de temps en temps à la maison avec mes enfants, justement, pour que j'aimerais bien qu'ils deviennent polyglottes, qu'ils parlent différentes langues. Déjà, français, espagnol, c'est la base à la maison. Et puis, ils sont bilingues maintenant. Après, la troisième, bah, l'anglais, parce que c'est vrai que c'est important. Et puis après, ça va être leur choix. Mon aîné, par exemple, il aime l'italien, donc moi, je l'encourage à continuer à apprendre cette langue-là, si ça lui plaît.
Quand tu es arrivé à Angers, tu savais déjà très bien parler le français ?
Oui, j'ai réussi à être professeur de français à ma ville. J'ai exercé le métier pendant 2 ans. Quand je suis arrivé, j'étais déjà francophone. Après, il y avait des expressions que je ne connaissais pas, et puis évidemment que l'intégration, tout ça, ça a passé par là. Mais oui, je maîtrisais la langue, on va dire ça comme ça.
Et le vocabulaire du sport était déjà présent ? Tu l'as aussi découvert un petit peu du football, de ton métier ? Tu l'as découvert après ?
Oui, je l'ai découvert petit à petit. C'est vrai que l'Illien, ou ce qui m'a permis de m'intégrer assez rapidement à la société française ou la société angevine, c'était le football. J'ai commencé au club des Murs Araignées. Et voilà, c'est vrai que ça permet de faire des connaissances. C'est un outil d'éducation, j'estime, le football. Et ça a été beaucoup plus rapidement de ce que j'ai pensé à mon intégration.
Donc par le sport, par l'univers de l'association sportive, ça a créé du lien social et ça a participé à ton intégration, ton accueil un petit peu à Angers.
Oui, tout à fait. Et puis ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise, voilà, de faire des connaissances, de commencer, parce que je suis quelqu'un qui est très sociable. Je viens d'une ville actuellement sont 9 millions d'habitants. C'est vrai qu'arriver sur Angers, pour moi, c'était un choc culturel. Là, c'est là où j'ai appris ce que c'est un choc culturel. Et j'avais du mal au début vraiment à rester que sur Angers, parce que j'avais l'habitude de bouger dans toute ma ville. J'avais beaucoup d'amis dans toute la ville. Et tous les 15 jours, j'allais à Paris pour, on va dire, respirer un petit peu et voir du monde, voir du mouvement. Ça m'est manqué.
Oui, Angers t'a paru très petit.
Si on regarde au niveau géographique, c'est comme un quartier de ma ville.
Et le choc culturel dont tu parlais, donc il a pris cet aspect-là dont que tu viens d'évoquer. Quelles d'autres illustrations il a pris ? Quelles autres difficultés ou facilités, différences tu as aperçues ?
La société, c'est vrai que les sociétés sont différentes. C'est vrai que chaque culture est différente et heureusement. Mais au Mexique, par exemple, tu peux aborder quelqu'un dans la rue comme ça et puis tu peux commencer à discuter comme si vous connaissiez depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en France, moi, quand je voulais discuter avec des gens et tout, si ce n'était pas dans le cadre du football, par exemple, avec des gens avec lesquels on pratiquait le sport, le même sport, c'était compliqué d'aborder quelqu'un. C'était tout de suite, tu es un inconnu, il y a une barrière, et ça, c'était pareil, un choc culturel.
Est-ce que tu t'y sens bien aujourd'hui à Angers ?
Ah oui, absolument. Très intégré, puis je vois comme la dynamique, les changements, l'évolution de la ville, je le suis depuis que je suis arrivé, le changement avec le grandissement des quartiers, le renouvellement de quartier, les lignes de tramway, enfin vraiment toute une évolution, toute cette métamorphose, on va dire ça comme ça.
Et en termes de sport à Angers, au-delà du football dont on va parler un petit peu après via ton activité, ton métier, est-ce que tu aimes aller suivre des clubs, aller voir des événements sportifs
Le tennis, d'ailleurs j'ai coupé un petit peu au foot dès 2012 en 2013, parce que je voulais faire du tennis. Au Mexique j'avais fait tout petit, et c'est un sport qui est très élitiste là-bas, ici un peu moins je trouve. Et donc du coup ça m'a permis de pratiquer vraiment à fond, donc j'ai été au club de la Vaillante, ATC d'abord. L'ATC quand il y avait les anciennes installations, là où il y a le club de Raymond Coppa. Et après, je me suis mis à faire du tennis. J'aime bien regarder le basket également. Voilà, un peu tous les sports.
Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton métier, de ton rôle aujourd'hui dans le sport angevin ?
Donc, coordinateur technique au club d'Angers FC, qui est au quartier de Montplaisir, à la ville d'Angers. C'est un club qui est en restructuration, qui cherchait un salarié en plein temps, en CDI. Moi, ça m'intéressait cette idée. Il y avait l'opportunité de pouvoir soit partir en Espagne et travailler dans un club, on va dire, professionnel, le club de Salamanca, soit rester ici et faire quelque chose. Donc moi, je me disais qu'il y avait vraiment encore, dans mes objectifs personnels, il y avait vraiment quelque chose à faire avec ces clubs-là pour l'aider à se structurer et puis se montrer dans le football local.
Et pour faire un petit lien aussi avec ce métier aujourd'hui, où est-ce que tu as accompli ta formation d'entraîneur? Comment c'est arrivé ce goût pour être éducateur, entraîné au football? Tu parlais tout à l'heure des langues, que tu as d'abord appris les langues, c'était un petit peu ta formation initiale. Comment tu as basculé vers l'attrait pour ce rôle d'éducateur sportif de football?
Il a toujours existé la pratique sportive à côté de mes études et puis ce que je faisais comme travail. Et en même temps, j'ai eu un petit groupe de jeunes U14, qu'on appelle U14 en Europe, au Mexique. Ensuite, quand j'arrivais, j'ai commencé au club de Murignan, jouer en tant que joueur. Il y a eu un changement de club en 2009. Je suis parti à l'Entrepide d'Angers. Et c'est là, avec le président à l'époque, Gilles Latté, qui est actuellement membre du comité directeur. On a discuté, je lui ai dit que j'avais envie de coacher, et on avait besoin aussi des coachs, et du coup ils m'ont mis adjoint en 8-17 qui jouait en région à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à passer mes diplômes avec la FFF, avec l'ancienne Ligue Atlantique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai passé mes diplômes pour arriver jusqu'au BE. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir, exercer professionnellement.
Donc pour revenir à Angers FC, aujourd'hui donc tu coordonnes un peu la politique technique du club, toute l'organisation sportive, l'idée aussi de comment on veut apprendre à jouer aux enfants et éduquer plus globalement les licenciés jeunes du club. Et c'est quoi un petit peu l'idée, les principes de base que tu portes dans ce club?
Comme tout le bien dit, c'est le projet sportif. On a un projet sportif, on a un projet éducatif. Et mon rôle, justement, c'est d'apprendre aussi à mes éducateurs de football, les responsables de chaque catégorie, comment on doit intervenir auprès d'un certain public, quelle est la manière dont on doit suivre et concevoir les séances, l'importance d'une programmation, par exemple. Pourquoi ça sert? Est-ce qu'on doit improviser tout le temps? Et si l'on fait, on va se perdre et puis on va perdre les enfants dans cette ligne directive d'éducation et sportive, évidemment, principalement. Donc c'est mon rôle, c'est ça, c'est coordonner mes éducateurs dans leur rôle. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils sont moins à l'aise? Leur évolution professionnelle, parce qu'il y en a certains qui méritent exercer dans ce domaine professionnellement, donc c'est les accompagner et puis suivre individuellement chaque joueur de chaque catégorie et voir noter leur évolution et puis qu'ils puissent avoir le moindre des lacunes possibles quand ils basculent d'une catégorie à l'autre. Et
comment la façon dont tu as grandi au Mexique avec le football, la vision aussi du football là-bas qui est peut-être un peu différente en termes de structure, de manière de jouer, d'envisager le jeu, comment ça s'articule avec ici? Est-ce que tu sens que tu as dû t'adapter aussi à quelque chose de différent en termes de vision du jeu? Est-ce que tu apportes une vision autre? Comment ça se passe?
Si on parle le football proprement, c'est, on va dire, les méthodologies, c'est pas les mêmes, tout à fait. En France, j'ai dû m'adapter à ce qui s'appelle la méthode analytique, qui est très pratiquée et demandée à faire par les FFF. Là-bas, c'est beaucoup plus à jouer, on va dire, une méthodologie globale, parce que c'est tout simplement en lien avec la réalité. Et la différence, c'est que j'ai dû m'adapter. C'est vrai que la méthodologie analytique te permet beaucoup de répétitions et puis tu deviens techniquement plus fort. Voilà. Mais j'ai adapté par rapport à mes formations que j'ai eues au Mexique et puis en Espagne aussi, on va dire, mettre en place ce qu'on appelle avec un micro-cycle, cette méthodologie mexicaine ou espagnole avec un lien étroit avec la réalité du jeu.
Donc tu as fait un beau mix entre les deux.
Un mélange, exactement.
Une autre dimension sur laquelle tu es impliqué professionnellement, c'est auprès de la Fédération mexicaine, je crois, où tu participes parfois un peu comme coordinateur logistique avec des sélections nationales diverses pour les accompagner sur des tournois, sur des compétitions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet accompagnement, de cette opportunité?
Oui, j'ai commencé au tournoi Montaigu, qui se déroule en Vendée, et c'est en 2015, et pour accompagner les U16 justement. C'était au début, c'était comme interprète ou traducteur. Parce que moi, je me suis rendu là-bas pour observer ou regarder le match du Mexique. Je savais qu'ils allaient jouer. L'interprète ou la personne qui faisait les traductions, c'était pas trop à l'aise avec l'espagnol. Donc du coup, comme j'ai fait connaissance avec les gens du staff, et puis qu'ils ont vu que mon niveau de français, il était très, très élevé, avec vraiment une bonne traduction de tout, une bonne interprétation de tout ce qui s'est passé autour et puis sur le terrain. Et ils m'ont demandé à rester, ils m'ont invité à dîner, et à partir de là, je suis resté travailler avec eux. Donc c'était bien, oui. Dans un premier temps, comme tu bien expliqué, c'était faire des traductions, et puis petit à petit, je suis devenu responsable de logistique. Donc comme je connaissais vraiment comment ça se déroule, les avant, les pendant et les après-match, je suis resté vraiment enchanté avec ces postes-là, et puis eux, ils me font confiance, et je participe à chaque fois qu'ils viennent en Europe, pas à chaque fois, mais le plus souvent possible avec eux.
Donc ponctuellement, quand une sélection féminine, masculine, jeune ou pas, vient en Europe faire un tournoi, tu peux être sollicité pour les accompagner sur le temps de la compétition et gérer un petit peu tous ces aspects-là, logistiques.
C'est ça. Et puis, ils sont tout le temps responsables logistiques qui viennent du pays, donc ils accompagnent la sélection ou pour l'équipe qui vient jouer en tournoi ou pour des matchs amicaux. Et puis moi aussi, comme je suis sur le terrain, en place en Europe, j'ai mon permis européen, j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'avantages qui me permettent ça coûte au moins pour la Fédé d'amener deux personnes, et puis le fait d'avoir quelqu'un qui a le permis, de quelqu'un qui connaisse comment ça se passe, les servants, les pendants, et puis même au niveau de l'hôtel, faut observer, faut demander, parce que ils sont très à ce niveau-là, comme ce niveau international, ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Il y a un diététicien, donc par exemple avec la cuisine du restaurant de l'hôtel, faut les ingrédients, est-ce qu'ils ont changé les ingrédients, faut tout observer, faut vraiment tous les détails, faut être partout.
C'est aussi des super aventures humaines et footballistiques, j'imagine, à chaque fois, ces temps-là avec une sélection.
Oui, ça m'a permis de retrouver des gens qui ont été formés dans le même centre de formation que moi, à l'Atlas par exemple. J'étais avec l'équipe qui a fait les Jeux Olympiques, au stage qu'ils ont fait à Marbella, en Espagne, avec des bons résultats, des décrets, puis des garder des liens avec des contacts importants au sein de la fédération, et puis des footballeurs aussi qui sont en Ligue 1 là-bas. Dont le père Gignac était très content, étonné de trouver un Mexicain qui parlait aussi bien le français. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Après, on voit. Voilà.
Dernière question, Carlos. C'est quand la prochaine fois que tu vas pouvoir retourner à Guadalajara?
Ah, ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien que ça soit l'année prochaine, mais bon, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, la priorité, c'est ma famille ici. Le contexte professionnel, parce que je me souviens que le club où je suis actuellement salarié devient vraiment un club connu d'abord au niveau de la ville, après au niveau département, et puis l'objectif à long terme qu'il soit connu au niveau régional.
Merci beaucoup Carlos, bonne continuation à toi.
Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle découverte, un nouveau voyage.
Un podcast réalisé par Lucas Lefranc et Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine.
Radio G. 101.5 FM.
Je me sens bien. fort la lumière et ouvre à peine les paupières. Et pas si vite, pas si fort la lumière, j'ai comme un doute.
J'ai pas peur des couleurs, et c'est belle.